RCF.
Il n'y a pas grand-chose à voir entre le métier de charpentier et celui de marin. Mais Jésus, l'artisan de Nazareth, aime la diversité et ne craint pas de brasser les origines. Alors qu'il démarre sa mission en Galilée, il appelle à lui des pêcheurs en pleine action, des hommes qui quittent sur le champ leur bateau pour suivre l'inconnu qui les a regardés depuis la rive du lac. C'est l'évangéliste Marc qui, ce dimanche, nous raconte la scène, un récit concis et percutant. Pour commenter ce passage, je reçois Michel Quesnel, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes prêtre oratorien, vous êtes bibliste et théologien. Nous écoutons la parole, c'est au chapitre 1, versets 14 à 20.
Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.
Resituons avec vous le passage que nous venons d'entendre. Nous sommes chez Marc, juste après l'épisode des tentations de Jésus au désert.
Absolument.
Qu'est-ce que vous diriez sur ce contexte ?
Ben, je dirais, si vous voulez, que c'est la première manifestation publique, finalement, de Jésus, le début de la prédication. Il a été, donc on a eu dans l'évangile de Marc, le premier verset qui donne un peu le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. On a eu la prédication de Jean-Baptiste, le baptême, les tentations, et voilà que Jésus se manifeste en prenant la parole. On ne sait d'ailleurs pas très bien à qui il parle, mais on sait qu'il parle. Et l'évangéliste, d'ailleurs, résume son message, je trouve, de façon assez superbe, parce que Jésus prêche l'évangile de Dieu. Et dans cet évangile de Dieu, il y a le mot « convertissez-vous et croyez » l'évangile. Donc on a l'évangile qui désigne le message global, et dans le message lui-même, on retrouve le mot « évangile ». Alors je trouve, si vous voulez, que Marc a une façon absolument magistrale de montrer le contenu, finalement, de la prédication de Jésus. Il y a quatre phrases. « Le temps est accompli, le règne du Dieu s'est approché, convertissez-vous, croyez en l'évangile. » Alors après, on va avoir effectivement l'appel des quatre. Ce qu'on ne sait d'ailleurs pas, c'est si les quatre ont entendu la prédication ou pas.
Vous connaissez bien cet évangile, vous lui avez consacré un livre paru au Seuil, je donnerai les références tout à l'heure. Qu'est-ce que vous diriez du style Marc, du ton Marc, sans en dire trop, mais pour nous faire rentrer un peu dans son récit qui est particulier?
Là, il y a une époque qui remonte à 50 ou 60 ans, où les exégètes disaient que Marc était de la petite littérature. C'est-à-dire que finalement, le style est un peu maladroit quelquefois. Il est beaucoup plus concis, sauf dans certains récits, que chez Matthieu et Luc. Et la façon dont justement Marc résume là le message de Jésus, on va vraiment à l'essentiel.
Il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de...
Non, alors il y a des récits où il y a beaucoup de fioritures. Par exemple, un peu plus loin, dans la guérison de la dame qui a des hémorragies et la résurrection de la fille de Jaïr, le récit de Marc est presque deux fois plus long que celui de Matthieu. Parce qu'il y a beaucoup de détails concrets. Alors, il est vrai que Marc va un peu de l'un à l'autre. Quelquefois, des récits très développés du narrateur qui finalement raconte avec moult détails. Et puis, quelquefois, au contraire, on se centre sur l'essentiel.
Michel Quesnel, nous allons avec vous relire l'évangile, comme nous en avons l'habitude. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il est question de l'arrestation de Jean-Baptiste. Le texte grec dit « après que Jean a été livré ».
Absolument. Alors Jean a été livré et Jésus lui-même sera livré. C'est-à-dire que finalement, si vous voulez, alors que le ministère de Jean s'arrête et que Jésus n'a pas commencé à prêcher, dire que l'un et l'autre, pour le premier, a été livré et le second sera livré, ça les rapproche considérablement. Et ça fait rentrer Jean-Baptiste dans l'Église, d'une certaine façon, parce que comme son ministère s'arrête avant, on pourrait penser qu'il est précurseur, mais sans entrer vraiment dans le groupe des disciples du Christ. Et là, finalement, cette livraison aux pouvoirs civils qui vont le mettre à mort crée un parallèle entre Jean-Baptiste et Jésus.
C'est pratiquement une préfiguration de ce que Jésus va vivre en étant livré.
Absolument, ça préfigure. Et je vous dis, ça fait entrer Jean-Baptiste dans le cycle de Jésus complètement.
Alors, dans cet évangile, on ne sait rien des raisons de l'arrestation.
Pas encore, on le saura plus tard.
Et puis Marc nous dit que Jésus part pour la Galilée. Alors j'aimerais qu'on revienne là-dessus. La Galilée, présentez-nous, c'est la terre natale de Jésus?
Alors la Galilée, bon, on ne sait pas si c'est la terre natale de Jésus, c'est la terre où il a été élevé au moins. Parce que la tradition fait plutôt l'aide de Jésus à Bethléem, c'est-à-dire en Judée, à 8-10 kilomètres au sud de Jérusalem. En revanche, Jésus a été élevé à Nazareth. Donc c'est son pays. Il s'est décentré de son pays pour aller trouver Jean, qui prêchait sur les bords du Jourdain.
Et devenir son disciple, vraisemblablement.
Absolument, tout à fait. D'ailleurs, l'évangéliste Jean précise que Jésus et le groupe de Jésus administraient des baptêmes, comme Jean-Baptiste en a administré lui-même.
Donc c'est un retour, là, en Galilée.
Alors,
après avoir été disciple.
Il retourne chez lui. Et j'avais fait remarquer à plusieurs reprises que, finalement, Jésus avait pas mal de distance par rapport à Jérusalem. Jérusalem est une ville où les grands prêtres sont corrompus, le milieu du temple pactise avec le pouvoir romain occupant. Et finalement, en Galilée, on est à plus grande distance du centre du judaïsme. On est plus libre d'une certaine façon. De même que Jean avait pris des libertés en quittant la région de Jérusalem pour aller sur les bords du Jourdain, Jésus prend aussi ses propres libertés, sa propre liberté, en retournant en Galilée, qu'on appelle quelquefois la terre des païens, la terre des nations, une terre beaucoup moins austère que la Judée. On circulait bien davantage et on côtoyait des païens aussi.
RCF, enfin une bonne nouvelle.
Michel Quesnel, Jésus part pour clamer l'évangile de Dieu, nous dit Marc. Il clame Jésus. Qu'est-ce que vous diriez sur ce clamer?
Si vous voulez, c'est quelque chose qui rappelle la façon dont les prophètes parlaient.
Comme Jean-Baptiste,
Absolument, voilà. La prédication prophétique est toujours dans la Bible présentée comme une parole forte, une parole lancée d'une certaine façon. On n'est pas dans la discrétion des petites conversations. Voilà, il y a une proclamation, oui.
Jésus disait, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Les temps sont accomplis, alors qu'est-ce que ça signifie?
Alors, c'est d'ailleurs pas les temps, c'est le temps.
Le temps.
Le temps, c'est même le moment. Parce qu'il y a finalement deux façons de dire temps en grec. Il y a le chronos, il y a le kairos. Ici, c'est le mot kairos qui est employé. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est le moment précis où nous sommes. Le chronos, c'est le temps qui se déroule dans la durée.
Linéaire.
Voilà, linéaire. Et le kairos, c'est le moment où nous sommes.
L'instant présent.
Alors, Jésus, finalement, veut dire que, avec le début de sa prédication, quelque chose de nouveau commence.
Qui traverse les temps, en fait.
Oui, c'est-à-dire que ce moment du chronos, finalement, est un moment précis qui marque le début de quelque chose. Et de même qu'on avait, avec la prédication de Baptiste, commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu, là, il y a vraiment le commencement de quelque chose de nouveau aussi, qui est la prédication de Jésus.
Donc, quand Jésus dit « le règne de Dieu est tout proche », le royaume de Dieu n'est pas un espace à rejoindre à une période donnée du temps, mais de tout temps, il est un moment. Vous diriez ça?
Je vais dire ce que c'est que le royaume de Dieu, j'aurais bien du mal, parce que finalement, Jésus ne le définit jamais.
Mais justement, qu'est-ce que c'est que ce règne dont il parle?
Il en parle en parabole. Alors, dans les prophètes du Premier Testament, il y a effectivement, surtout chez Isaïe, l'affirmation qu'à un moment donné, on pourra dire « ton Dieu règne ». Vous avez ça en Isaïe au chapitre 52. Et finalement, là, vous avez quelque chose, ce quelque chose-là, est initié. Alors, en même temps, le règne de Dieu, il y a donc quelque chose qui est déjà là, mais c'est toujours en avant. C'est-à-dire que finalement, le règne de Dieu, il est présent, et pour en bénéficier, il faut avancer.
Et donc, il se découvre en marchant.
Absolument. Et c'est tout le contraire de quelque chose de stable. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jésus ne le définit jamais. Et quand il parle du règne de Dieu en parabole, c'est toujours un processus.
Et la graine...
Voilà, quelque chose qui évolue, la graine, la femme qui met du levain dans la pâte, etc., etc. Le semeur, c'est toujours un processus évolutif. Ce qui veut dire que finalement, si on veut être dans la perspective du règne de Dieu, il faut bouger.
Convertissez-vous, croyez à l'évangile. Là, on a un Jésus qui reprend le flambeau après Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste parle de conversion.
Absolument, il prêchait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Alors Jésus, effectivement, ne reprend pas l'expression « pardon des péchés » à ce moment-là, mais l'invitation que Jean-Baptiste avait lancée, Jésus la reprend à son compte. Simplement, en disant ce que Jean-Baptiste ne disait pas, « croyez à l'Évangile ».
Alors justement, ce croire-là, « croyez à l'Évangile », qu'est-ce que vous diriez là-dessus?
Moi, je dirais, si vous voulez, que dans l'Évangile de Marc, Jésus et l'Évangile se superposent. Quand vous avez, dans le début du récit, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, j'ai presque envie de dire commencement de l'évangile qu'est Q-U-E-S-T, Jésus, fils de Dieu. Il y a une espèce de synonymie entre l'évangile et Jésus. La bonne nouvelle, c'est lui, finalement. Alors, il la prêche, et finalement, dans l'évangile de Marc, il se prêche, lui aussi, en tant que mort et ressuscité, parce que le mot évangile désignera en particulier sous la plume de Paul la bonne nouvelle de la résurrection. Donc, quand Marc résume la prédication de Jésus, il ne le fait pas seulement de façon historique. Il le fait dans la perspective globale que celui qui parle là est lui-même la bonne nouvelle qu'il prêche.
Oui, puisqu'il faut rappeler que ces textes, bien sûr, sont écrits après la résurrection. Donc, il incarne là, Jésus, le royaume aussi.
Absolument, tout à fait.
Michel Quesnel, nous continuons à regarder cet évangile. Chapitre 1, versets 14 à 20, c'est chez Marc. « Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon. » Ils étaient en train de jeter les filets dans la mer, car c'était des pêcheurs. Donc nous sommes en Galilée, nous l'avons dit, au bord donc de cette grande mer intérieure, le lac de Tibériade.
Oui, on l'appelle par ailleurs effectivement le lac de Tibériade. C'est une cavité dans la croûte terrestre, puisqu'il est à 210 mètres de profondeur par rapport au niveau de la mer. Et c'est une région effectivement très fertile, très poissonneuse. Aussi la mer de Galilée est très poissonneuse. Et vous l'avez remarqué tout à l'heure, Jésus, le charpentier, finalement, se délocalise de Nazareth, qui est à l'intérieur, qui n'est pas sur les bords du lac. Et les bords du lac sont beaucoup plus passants que Nazareth. Nazareth, c'est un tout petit bled. Vous savez que Nazareth n'est même pas cité dans l'Ancien Testament. Alors que les bords du lac, c'est vraiment la région où ça circule, ça pêche. L'industrie, l'artisanat sont beaucoup plus vivants qu'à Nazareth.
Et donc, alors Jésus va sur cette terre-là
Parce que finalement, c'est là qu'il y aura du monde. S'il s'était contenté de prêcher la bonne nouvelle dans les rues de Nazareth, il n'aurait pas eu grand public.
Alors Jésus voit Simon et André. Hein. On nous dit là ce regard, c'est lui qui prend l'initiative.
Alors je vais d'abord, si vous voulez, mettre en valeur le fait que les récits de vocation dans la Bible sont souvent racontés de façon stéréotypée. Quatre étapes. Celui qui appelle voit, il appelle... Celui qui est appelé manifeste son oui et il suit. Et là, on va avoir effectivement les quatre étapes pour les deux appels que nous avons dans ce passage.
Ce qui dit que Marc était bien nourri de ces textes de la Première Alliance.
Complètement.
Alors, il voit Jésus. Qu'est-ce que vous diriez sur cette première chose qui est très très importante?
Déjà, pour voir Jésus, il faut le regarder.
Pour voir quelqu'un, oui.
Absolument, pour voir quelqu'un, il faut le regarder. Et donc, si vous voulez, Jésus est attentif aux personnes et il les voit... en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, en train de jeter leur filet. C'est-à-dire qu'ils les regardent non pas simplement comme des icônes, ils les regardent comme des gens en activité. Et ils sont déjà finalement en mouvement par leur propre métier. Et voyant ces gens en mouvement, il se dit que peut-être il pourra leur proposer un autre mouvement qui va être le mouvement de le suivre, qui est le quatrième élément de la récit de vocation.
Jésus leur dit « Venez à ma suite, je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Venez à ma suite, donc l'appel est lancé.
C'est l'appel.
Parole claire après la vision, le regard, la parole.
Absolument.
Mais alors cette histoire de pêcheurs d'hommes là, « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes », qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, l'expression est un peu compliquée parce qu'ils étaient pêcheurs et Jésus finalement leur propose d'autres perspectives oui, que de pêcher des poissons. Donc, il y a quelque chose de leur condition qui demeure. Ils étaient pêcheurs, Ils vont rester pêcheurs, mais ils ne seront pas pêcheurs de la même chose. Alors, le mot pêcheur d'homme, d'ailleurs, nous est un petit peu, enfin, nous perturbe un peu, parce que quand on pêche des poissons, on les tire de l'eau, on les fait mourir. Alors, si on pêche des hommes de la même façon, c'est à quelque chose d'un peu mortifère. Hein. Mais j'ai souvent l'occasion de rappeler que, pour le monde juif, le profondeur marine était le monde des démons.
Donc on tire l'homme, justement, des enfers.
On le tire du domaine du mal pour le faire entrer dans quelque chose d'autre.
Ça voudrait dire ça, alors?
Ah, je pense que c'est l'expression est celle-là. Alors d'abord, ils vont effectivement s'approprier, rassembler autour d'eux, au lieu de poissons, des personnes humaines, mais en les sortant de ce qui, en eux, est mauvais, et en les faisant advenir, justement, à quelque chose qui les met au grand air, dans le domaine du royaume, finalement.
Enfin, une bonne nouvelle, Béatrice Soltner.
Michel Kenel, Jésus ne dit pas « vous allez devenir des pêcheurs d'hommes », il dit « je vous ferai devenir ».
Absolument.
Devenir, donc ça indique que ce sera un travail de longue haleine, fait de patience, de persévérance, quand on apprend un métier finalement.
Ben, ils ne vont pas réussir du premier coup. Ils auront peut-être quelques coups d'essai, mais finalement pour devenir pêcheur d'hommes, il y a toute une évolution personnelle qui devra se faire. Ce qui est d'ailleurs amusant, c'est que l'évangéliste ne dit pas si Jésus connaissait déjà ces gens avant ou pas. Parce que ça nous paraît un peu étrange qu'un appel qui tient en quelques mots fasse changer complètement les personnes de ce qu'ils étaient en train de faire, de leur métier, de leur famille, et laisser leur filet. Hein. Ils vont abandonner quelque chose aussi. Donc, il est possible que Jésus les ait déjà rencontrés avant, mais à le moment où finalement, il les fait changer, tout en restant eux-mêmes, puisqu'ils sont pécheurs. Donc il y a quelque chose d'eux qui est rester soi-même et quelque chose d'eux qui est devenir plus disponible.
Michel Kenel, aussitôt, laissant leur filet, ils le suivirent. Donc là, Marc parle de Simon et André. Le mot « aussitôt » revient très souvent chez Marc. Rapidité de la réponse. Il y a un retournement là. Il y a quelque chose de,
tout à fait.
D'un avant et d'un après.
Oui.
Les filets sont laissés. Donc ils se mettent en marche pour le suivre.
Et le laisser quelque chose est important.
Parce qu'on le retrouvera à la fin.
Et puis on va le retrouver pour les autres.
Laisser le Père.
Absolument, voilà. Il faut, quand on finalement on accepte de se mettre à la suite de Jésus, il y a des éléments de pesanteur qu'il faut abandonner. C'est la dimension, si vous voulez, pensez à ascétique, hein, de la condition chrétienne. Et si on n'a pas effectivement cette volonté de laisser tout ce qui fait peser, tout ce qui traîne vers le bas, etc., etc., je pense qu'il n'est pas possible de devenir disciple et d'être à la suite de Jésus.
Alors Jésus vient d'appeler Simon et André, puis Marc nous dit « Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean qui était dans la barque et réparait les filets.
Oui. »
Donc à nouveau le regard. Et puis là, ce sont à nouveau deux frères. Alors qu'est-ce que vous diriez là-dessus? On n'en a pas parlé sur la fraternité. Les deux premiers frères, les deux seconds frères, c'est signifiant ça?
C'est-à-dire, je crois que dans la liste des 12, finalement, ces quatre-là sont les seuls qui sont frères de sang. C'est d'ailleurs amusant de voir que Jacques, fils de Zébédée, aura un rôle plutôt mineur par rapport à Jean, son frère. Mais ce doit être l'aîné des deux.
Et là, il est fait mention justement de la famille, hein, Zébédée.
Tout à fait. Zébédée, d'ailleurs, les parents de Madame Zébédée, si j'ose dire, sera à nouveau présente dans l'évangile de Marc. Et la mère de ces deux messieurs, on les retrouvera dans les évangiles et chez Matthieu également.
Quand elle demandera une place pour ses deux
Absolument.
Fils. Aussitôt, Jésus les appela, encore le aussitôt. Là, cette fois-ci, il est du côté de Jésus. Donc, il y a comme une urgence hein, de
tout
sa
fait.
Part. Il faut y aller. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Donc, le verbe laisser est encore utilisé.
Et ils laissent davantage, presque, parce que les autres, les deux premiers, ont laissé leur filet simplement, c'est-à-dire des choses.
Lâchage matériel et là, lâchage affectif.
Absolument. Et ils prendront de la distance par rapport à leur famille. D'ailleurs, on verra un peu plus loin dans l'évangile de Marc que Jésus lui-même a dû prendre aussi des distances par rapport à sa famille pour mener sa mission de prédicateur itinérant sans être justement retenu en arrière par le milieu familial.
Justement, c'est dans l'évangile de Marc qu'il prend beaucoup de recul par rapport à la
Absolument,
famille.
Absolument, c'est celui où il en prend le plus.
Quand sa mère le cherche avec
oui,
les frères.
Oui, et puis il a toute sa famille qui disent qu'il a perdu la tête.
Donc effectivement, quand on lit ce passage, on se dit quelle soudaineté finalement. Mais vous disiez que peut-être que Jésus connaissait ces hommes, qu'il y a eu un travail plus long. On est là dans un récit beaucoup plus ramassé.
Tout à fait. Et puis alors, il y a aussi la prise en compte du fait que la famille, dans les réalités orientales, elle est quand même extrêmement prégnante. Et finalement, on a besoin pour être soi-même, si on veut avoir un rôle un peu original, on est obligé de prendre des distances par rapport à sa famille. La famille, c'est le clan. Et si vous êtes trop à l'intérieur du clan, finalement, vous ne pouvez pas faire grand-chose.
Michel Quesnel, en quoi l'évangile que nous avons lu aujourd'hui est une bonne nouvelle pour nous? En quoi nous rejoint-il, cet évangile?
Parce que je pense, si vous voulez, que ces quatre appels qui nous sont proposés là, ce sont des appels qui nous sont à nous aussi adressés. Je crois qu'on peut dire, effectivement, que lorsque l'évangéliste, finalement, montre l'appel de ces quatre premiers, il dit à son lecteur, si tu veux être mon disciple, si tu es disciple de Jésus, tu auras à vivre des choses analogues. Donc, d'abord, Jésus te voit. Tu es regardé d'un regard amoureux. Ensuite, il t'appelle. Si tu veux répondre à son appel, tu auras des choses à laisser tomber, des choses à abandonner. Parce que tu ne peux pas t'aventurer comme disciple de Jésus avec trop de pesanteur. Et après, alors, le verbe suivre, d'ailleurs, c'est amusant, c'est marcher derrière, marcher à la suite. Alors, Jésus marche devant et finalement, on a maintenant devant soi, si on accepte d'être disciple de Jésus, un modèle, quelqu'un à la suite duquel on se situe.
Le fait que Jésus choisisse, entre guillemets, des collaborateurs, qu'est-ce que ça nous dit de Dieu, ça? Il choisit des hommes pour l'aider.
Ben, on ne dit pas ici qu'importe c'est pour l'aider. Hein? Alors, mais ce sera ça quand même.
Là, je m'avance un peu, mais oui. Quand on regarde l'histoire de l'Église, c'est souvent pour cela.
Absolument. Ben, ça veut dire, si vous voulez, que d'abord, on n'est jamais prophète tout seul, si j'ose dire. On a un message original. Mais je crois qu'il y a toujours, finalement, autour de gens qui ont une certaine originalité et un message qui porte, il y a des cercles successifs. Alors, il y a effectivement le groupe que Jésus constituera autour de lui, qui sera nommé plus tard, d'ailleurs, les 12. Et ce sont les plus proches. Il a besoin aussi de vivre en communion avec des personnes qui seront ses aides, il les enverra d'ailleurs aussi prêcher à leur tour, deux par deux en général. Alors, le deux par deux est significatif, hein. Nous ne sommes pas Jésus, mais nous sommes aussi appelés à être prédicateurs. Et quand on prêche, on veut prêcher deux par deux, sinon on se prêche soi-même. Tandis que là, Jésus peut se prêcher lui-même, puisqu'il est lui-même la bonne nouvelle, l'évangile. Mais les autres, quand ils auront à prendre la parole, il vaut mieux qu'ils soient deux par deux. Oui.
Jésus n'appelle pas des prêtres, des scribes. Il appelle des personnes, des artisans, des types qui ont les mains calleuses et qui bossent quoi, dans leur bateau. Qu'est-ce que ça nous dit, ça aussi?
Je pense qu'il appelle deux types de personnes, effectivement. Des gens, si vous voulez, artisans comme lui l'était. Et il appelle aussi des gens qui sont mal vus de l'environnement, et en particulier les autorités du Temple de Jérusalem. Il appelle des publicains. On aura l'appel de Lévi, quelque temps après, qui était percepteur d'impôts. Donc très mal vu de son environnement.
Parce que collabo un
Parce
peu
que, absolument.
Avec les Romains.
Absolument. Et finalement, Jésus ne recrute pas des purs. Et ça, je crois que c'est très important de le dire. Parce qu'on a quelquefois l'impression, effectivement, qu'il serait mieux aidé s'il avait autour de lui des gens irréprochables, d'une certaine façon, déjà des saints. Non, ils ne sont pas des saints au départ. D'ailleurs, on verra bien que Pierre est loin d'être saint dans l'ensemble de l'évangile de Marc. Il appelle des gens ordinaires et qui ont beaucoup de chemin à faire, finalement. Et je crois que c'est la longueur du chemin à accomplir qui montre que, finalement, nous sommes tous en mesure d'être appelés et de faire un chemin analogue.
Vous qui êtes prêtre, vous devez le savoir, souvent ce texte, il est proposé aux personnes qui se posent la question de la vocation. On pourrait peut-être le réduire justement à ça, devenir prêtre, religieux. Qu'est-ce que vous diriez, vous, sur la vocation de tout baptiser?
Je pense qu'on a fait de ce texte, si vous voulez, un peu le prototype de l'appel à la vocation presbytérale, mais je crois que c'est un gauchissement du texte par rapport à l'intention de Marc. parce que finalement, justement, Jésus n'est pas allé chercher des gens qui sont déjà préparés à une mission trop spécifique par rapport à Monsieur Tout-le-Monde. Monsieur Tout-le-Monde est appelé de la même façon.
On le voit d'ailleurs dans les rencontres qui ponctuent l'Évangile.
Absolument.
Il y a vraiment des personnes très différentes, des femmes aussi.
Tout à fait.
Même si elles ne sont pas dans le cercle des douze.
C'est surtout Luc qui mettra en valeur le fait que dans l'entourage de Jésus, il y a des dames.
Les parents qui écoutent cet évangile pourraient en vouloir à Jésus de venir bousculer l'ordonnancement de la famille, voire de l'entreprise, puisque là, le père Zébédée n'a pas dû être très content que ses fils partent comme ça subitement. Il vient déranger quand même ce Jésus-là, nos affaires. Je pensais aussi au père de François d'Assise, quand le fils François a dit qu'il larguait l'entreprise familiale de draperie.
Est-ce que vous ne pensez pas que si on veut être vraiment témoin de Jésus, il y a pas mal de choses à bousculer? D'abord dans la personne elle-même, et on le voit bien effectivement, ces quatre bons hommes ont été singulièrement bousculés quand même par Jésus. Et puis finalement, effectivement, leur attache est bousculée de la même façon. Leur milieu d'attache est bousculé de la même façon.
Oui, mais dans le contexte dans lequel on vit, on a besoin de sécurité, d'assurance. Entendre ces paroles-là, elles sont fortes.
Alors écoutez, là, je ne vais pas me mêler de faire un discours politique. Mais je pense qu'il y a une sorte de dialectique de la liberté et de la sécurité. Dans les devises de la République française, il y a liberté, égalité, fraternité, il n'y a pas sécurité. Et actuellement, il me semble que devant les difficultés devant lesquelles nous sommes, soit par la violence dans les rues, soit par la violence de la pandémie, on sécurise énormément. Et je pense qu'en se sécurisant, on se ferme justement à la possibilité de vivre librement, de profiter de la liberté des enfants de Dieu. Il me semble que cette idéologie sécuritaire peut être très néfaste pour que la société soit ouverte aux autres et soit elle-même en marche.
Donc le disciple, il est libre, en même temps, il prend soin des autres. Donc il y a un équilibre à trouver entre la liberté, faire avancer la société, l'audace et puis le respect aussi du bien commun.
Tout à fait.
C'est ténu ça. Et on voit bien comment l'Église aujourd'hui est traversée par cette question.
C'est une ligne de crête. Hein, c'est-à-dire qu'on est toujours finalement tenté de verser soit du côté de la liberté presque libertaire, et l'autre côté, la sécurité complètement enfermante.
Merci à vous, Michel Quesnel. L'évangile que nous avons commenté est à retrouver chez Marc au chapitre 1, versets 14 à 20. Et puis je signale que vous avez consacré un ouvrage entier à l'évangile de Marc aux éditions du Seuil. Ça s'appelle « Comment lire un évangile Saint-Marc ». Votre dernier livre paru, lui, il est chez Nouvelle Cité, « Ce que dit la Bible sur la souffrance ». Et puis, vous venez de participer au collectif « Après Jésus, l'invention du christianisme ». Il est édité chez Albin Michel. Merci à Philippe Faure, à la réalisation technique.